Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, je vous propose de vous parler non pas de une, mais de deux constellations qui sont si proches qu'il est bien difficile de les délimiter. Il s'agit de Pégase et Andromède. D'abord, situons-les. Si on veut commencer par Andromède, le plus simple est de s'aider de Cassiopée. On va suivre la direction indiquée par la plus grande et la plus brillante pointe du W. On tombe alors sur trois étoiles assez brillantes, Almaque, Mirac et Alpheratz, qui sont pratiquement alignées. Ce sont les trois étoiles les plus brillantes d'Andromède. Pégase, quant à elle, forme un grand carré à côté d'Andromède. Il est à noter qu'Alpheratz fait à la fois partie de la ligne d'Andromède et du carré de Pégase. Cette étoile était d'ailleurs incluse dans Pégase, c'était Delta Pégasi. Mais elle est rattachée à Andromède depuis 1930 et le découpage des constellations par l'Union Astronomique Internationale. Delta Pégasi n'existe donc tout simplement pas. On passe directement de Gamma à Eta Pégasi. On peut aussi commencer par repérer Pégase. Sa forme à elle seule permet de l'identifier. En effet, son grand carré et l'absence significative d'étoiles à l'intérieur est suffisant pour l'identifier. Mais pour les premières fois, on peut aussi s'aider d'autres constellations. Est-ce que vous vous souvenez comment on repère l'étoile polaire? On prolonge le côté de la casserole de la Grande Ourse 5 fois. Et bien sur cette même droite, si on continue après l'étoile polaire, on tombe sur le côté du carré de Pégase. Le carré de Pégase est à peu près 2 fois plus loin de l'étoile polaire que la Grande Ourse.
Je voltais dans les ténèbres, à l'allure d'un convoi funèbre. Je goûtais l'air de la nuit, je ramais sans faire de bruit. Dans l'épaisseur du silence, lorsque je fus ébloui par une chaude incandescence qui émanait d'un beau fruit. Ma mère m'avait prévenu, méfie-toi des ampoules nues. T'approche pas de ces globes.
L'histoire d'Andromède commence essentiellement avec la tradition grecque. Mais une forme féminine apparaît plus tôt dans l'astronomie babylonienne. Les étoiles qui composent les poissons et la partie du milieu d'Andromède ont eux aussi formé une constellation représentant une déesse de la fertilité, quelquefois appelée Anunitum, la dame des cieux. En latin, Andromède est appelée Mulier Catenata, c'est-à-dire la femme enchaînée. Elle s'appelait aussi Perséa, épouse de Persée, ou Céphéis, la fille de Céphée. Vous vous souvenez peut-être de l'histoire de Cassiopée dans laquelle apparaissait Andromède. Je vous la rappelle. Cassiopée, reine d'Éthiopie, se vantait que sa fille était plus belle que les Néréides, les nymphes de la mer pourvues d'une beauté incroyable. Outrée par cette remarque, les nymphes ont demandé à Poséidon de punir Cassiopée pour son insolence. Il accepta et il ordonna que le monstre marin Cétus attaque l'Éthiopie, le royaume de Cassiopée. Prenant peur, le roi Céphée, mari de Cassiopée, alla consulter l'oracle d'Amon, qui lui déclara qu'il ne pourrait sauver son royaume qu'en sacrifiant sa fille, Andromède, à Cétus, le monstre marin. Elle fut donc enchaînée sur un rocher du rivage. Mais Persée put la sauver en utilisant la tête de Méduse pour changer le monstre en pierre. Algol, qui est Bêta Perséide, l'étoile démon, représente d'ailleurs la tête de Méduse. Vous en saurez plus en écoutant l'épisode sur Persée. Plus tard, Andromède et Persée se sont mariés. Le mythe raconte que le couple a eu 7 enfants, 6 fils et une fille. Ils fondèrent Mycène et la dynastie des Perséides. Après la mort d'Andromède, Athéna l'a mise dans le ciel sous forme d'une constellation pour l'honorer. Quelques constellations proches, Persée, Cassiopée, Cétus, Céphée, représentent les autres personnages du mythe. Généralement, elle est représentée avec Alpha Andromeda, Alpharez formant sa tête, et Mirac et Almac, bien alignés, formant les hanches et le pied d'Andromède. On peut repérer son genou et son deuxième pied parallèle à la ligne principale. Mais pour le reste, les bras et les chaînes d'Andromède, les représentations ne sont pas unanimes. Le personnage de Pégase est plus connu. Il représente un cheval, généralement grand, et pourvu d'ailes. Né de la décapitation de la Méduse par Persée, Pégase se met rapidement au service de Zeus, qui le charge de transporter les éclairs de la foudre. Pégase fut ensuite la monture de plusieurs héros. Bellérophon d'abord, qui grisé par ses succès tenta d'atteindre l'Olympe sur le dos de Pégase sans y parvenir. Pégase aida ensuite Persée à délivrer Andromède de ses chaînes en combattant Cétus, le monstre marin. Et il semblerait que l'association des mythes de Persée et de Pégase remonte plutôt aux premiers commentaires médiévaux des textes classiques, car on ne trouve pas de traces du couple Persée-Pégase dans les textes antiques eux-mêmes. C'est surtout la peinture, figurant Persée monté sur le dos de Pégase pour libérer Andromède, qui va populariser cette idée. L'objet le plus fameux d'Andromède est M31, la galaxie d'Andromède, un des plus lointains objets visibles à l'œil nu. Il s'agit d'une énorme galaxie spirale semblable à la nôtre. Pour trouver la galaxie, on peut dessiner une ligne entre Bêta et Mu Andromède, le genou d'Andromède qui se trouve au-dessus de Bêta, et poursuivre cette ligne sur à peu près la même distance depuis Mu. On trouve alors la galaxie d'Andromède. Elle était appelée Grande Nébuleuse d'Andromède jusqu'à ce que sa vraie nature ait été reconnue dans les années 20. La galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée. La galaxie d'Andromède fait partie du même groupe local que la Voie lactée. Avec un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, elle contiendrait 1000 milliards d'étoiles, 2 à 5 fois notre galaxie. Elle a une magnitude de 3,4. C'est donc l'une des rares galaxies observables à l'œil nu depuis la Terre dans l'hémisphère nord. C'est également un des objets les plus étendus de la voûte céleste, avec un diamètre apparent de 3 degrés, soit 6 fois le diamètre apparent de la Lune. Mais malgré son étendue, elle n'est pas très lumineuse, et vous aurez besoin de bonnes conditions pour pouvoir l'observer. Si elle est repérable à l'œil nu, elle est encore plus belle observée aux jumelles. On voit alors nettement son aspect ovale, avec le centre plus brillant. Si vous avez un télescope, vous pourrez même distinguer ses bras spiraux. Elle est l'un des objets préférés des astronomes débutants. La première mention écrite connue de la galaxie d'Andromède remonte à 964, année durant laquelle elle est décrite par Abd al-Rahman al-Soufi dans son livre des étoiles fixes. La première observation de la galaxie à l'aide d'un télescope est réalisée par Simon Marius en 1612, qui est souvent décrit comme le découvreur de la galaxie. La constellation de Pégase est remarquable pour visualiser le quadrillage de la voûte céleste. En effet, souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé, les constellations et les étoiles sont repérées par les coordonnées, qu'on appelle coordonnées équatoriales. On parle de déclinaison et d'ascension droite. C'est comme si la voûte céleste était quadrillée, un peu comme une carte de la Terre avec les méridiens et les parallèles. Le point zéro des abscisses est le bord gauche du carré de Pégase. Cette ligne est appelée le méridien d'origine. C'est le méridien qui, en cartographie céleste, sert de référence pour la longitude, c'est-à-dire de 0 degré, à l'échelle d'un corps céleste. Un peu comme le méridien de Greenwich pour les méridiens terrestres. À partir de ce méridien, on mesure l'ascension droite, qui est une mesure en heures-minutes. Un cercle entier le long de l'équateur céleste compte 24 heures en tout. Une heure d'ascension droite représente à peu près 15 degrés, soit à peu près l'écart entre les deux bords verticaux du carré de Pégase. La deuxième dimension des coordonnées équatoriales, c'est la déclinaison, qui se mesure en angle depuis l'équateur céleste vers le nord ou vers le sud. Les bords horizontaux du carré de Pégase dessinent deux lignes, de déclinaison 15 et 30. On peut donc assez facilement visualiser, grâce au carré de Pégase, l'ensemble du quadrillage des coordonnées équatoriales. Par exemple, Alpha de la Petite Ourse, qui est située presque dans l'axe de rotation de la Terre, c'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile polaire, a une ascension droite de 2h31 et une déclinaison de 85 degrés. Bételgeuse, la grande géante rouge de l'épaule gauche d'Orion, est située à 5h55 d'ascension droite et à 7 degrés de déclinaison. La ceinture d'Orion est située très près de l'équateur terrestre, qui coupe la constellation en deux. Le point zéro du quadrillage, l'intersection du méridien d'origine et de l'équateur terrestre, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Il correspond au point où le soleil se lève au moment de l'équinoxe de printemps. Mais si vous avez bien écouté cette série de podcasts, vous savez que le mouvement de la Terre par rapport aux étoiles fait que le soleil ne se lève pas exactement au même endroit tous les ans, ou plutôt que d'un siècle à l'autre, à la même date et à la même heure, les étoiles ne sont pas vues dans la même direction. Ce qui fait que le point vernal se déplace très lentement, d'un degré tous les 72 ans. Mais alors me direz-vous, les coordonnées équatoriales, elles ne sont pas stables ? Les coordonnées de l'étoile polaire ne seront plus les mêmes dans 72 ans ? Eh bien, pour compenser ce décalage, les astronomes utilisent les époques. La coordonnée est donc valable pour une certaine époque. Depuis 1984, c'est l'époque J2000 qui est l'époque standard. Les coordonnées équatoriales sont donc valables à un certain moment. Deux objets célestes valent le détour dans la constellation de Pégase. D'abord, à l'opposé du grand carré, vous pourrez trouver l'amas globulaire M15. Sa magnitude est de 6. Il est visible aux jumelles, comme une boule diffuse. Pour le trouver, pointez Enif, le naseau de Pégase, et placez-la au bord sud-est du champ des jumelles. M15 apparaît alors au bord opposé. Il conserve son aspect floconneux dans les lunettes et les petits télescopes, avec quelques étoiles périphériques et un noyau brillant. Un diamètre instrumental au moins égal à 13 cm vous en révèle toute la beauté. Pensez qu'il évolue en périphérie de notre Voie lactée, à une distance de l'ordre de 40 000 années-lumière. Arrêtez-vous ensuite quelques instants sur l'étoile située entre le cou et les jambes de Pégase, à l'avant du carré. Visible à l'œil nu sous un bon ciel ou aux jumelles en cas de pollution lumineuse, l'étoile 51 Pégasi est de magnitude 5,5. Ce n'est autre que celle autour de laquelle les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz ont découvert la première planète extrasolaire en 1995. Celle-ci n'est malheureusement pas visible dans les instruments d'amateurs. Il faut donc se contenter d'imaginer à quoi peut ressembler cet autre monde distant de 50 années-lumière de nous.